France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Que deviennent les vies minuscules dans le broyeur du fascisme? C'est ce que cherche à montrer Julie Duclos dans son nouveau spectacle. Elle a choisi 13 tableaux de la pièce de Brecht, Grand-peur et misère du Troisième Reich. C'est sur la scène de l'Odéon à Paris et elle sera mon invitée à 13h. Mais d'abord, place à la critique. La littérature nord-américaine est au menu avec deux romans. Les Terres Indomptées de Lauren Groff aux éditions de l'Olivier et Le Lac de la création de Rachel Kushner. C'est chez Stock. Pour en parler dans les midis aujourd'hui, Marie Sorbier, productrice du Point Culture tous les jours dans cette même émission.
Bonjour Marie.
Bonjour Lucille Comeau, dont on écoute le regard culturel tous les jours dans les matins de France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à toutes les deux. On commence avec Les Terres Indomptées, cinquième roman de Lauren Groff qui a paru aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Karine Chichereau. Ces Terres Indomptées du titre, ce sont celles qui bordent Jamestown, la première colonie anglaise dans ce qui va devenir la Virginie. Nous sommes au XVIIe siècle et une toute jeune servante, exilée de force dans ce nouveau monde, décide de fuir la compagnie des hommes, brutale, injuste, malade, pour se perdre dans la forêt, qui n'est pas moins dangereuse, mais on dira moins barbare. On commence avec un avis rapide de l'une et de l'autre, Marie Sorbier.
C'est vraiment un roman avec un motif classique de la construction d'une héroïne, donc cette jeune fille servante qui se retrouve avec ses maîtres dans le nouveau monde sans l'avoir choisi, et elle décide de ne plus subir et de tenter sa chance seule et dans le froid, on y reviendra dans ce froid-là. Donc c'est une fable écolo-puritano-féministe qui ne surprend ni dans le fond ni dans la forme, mais qui est malgré tout très bien construite.
Lucille Comeau.
Moi, je serais plus enthousiaste que Marie, je pense. Je trouve que c'est très efficace et je trouve que justement, on arrive à oublier dans la mécanique du récit très linéaire. C'est vraiment un survival, le livre. On arrive à oublier les réflexes de la fable, quoi. Puritano-féministe.
Écolo-puritano-féministe.
Voilà, on l'oublie un peu, tant mieux. C'est plutôt pas mal.
On va revenir sur cette fable, bien sûr, mais d'abord, on va écouter un passage de ce livre qui nous est lu par Boris Pinault aujourd'hui.
La lune s'était cachée derrière les nuages. Le vent cinglait la neige glacée en diagonale. À travers une fente de la haute palissade noire, trop fine semblait-il pour laisser passer une personne, la jeune fille se faufila jusque aux vastes, jusque aux terribles terres sauvages. Sa capuche tombait bas sur son visage. Frêle était-elle, osseuse, menue, comme une enfant, réduite par la faim à presque rien, à sa racine, ses nerfs, ses fibres, ses tendons. Bien qu'affamée et aveuglée par les ténèbres, elle était preste. Elle se redressa, trébucha au premier pas et faillit choir. Mais elle se rattrapa et détala à toute vitesse par les ornières gelées des champs, parmi le chaume du blé mort qui déjà l'été précédent était d'un noir de suie et dépourvu de grains rabougris par la maladie. « Plus vite, ma fille !» se disait-elle. Et tout à la peur et l'angoisse, ses jambes étaient plus vives encore. Ses bottes robustes, elle les avait volées au fils d'un gentilhomme, un garçonnet de la moitié de son âge mais de la même taille, emporté la nuit précédente par la petite vérole, les pustules telles la rouille recouvrant ses os affamés. Les gants de cuir et l'épaisse cape, elle les avait dérobés à sa propre maîtresse. Elle chassa cette femme de ses pensées, qui pleurait encore à genoux sur le sol gelé de la cour, au cœur de cet antre du diable. Chaque pas l'éloignait, et tout ce qui la retenait, peu à peu, perdait de son pouvoir sur elle.
Les Terres Indomptées de Lauren Groff à l'Olivier, traduction de Karine Chichereau. Marie Sorbier, vous parliez d'une fable écolo, féministe et puritaine.
Oui, parce qu'en fait, c'était un peu en référence avec son livre d'avant qui s'appelait Matrix, qui était aussi une fable, mais qui se déroulait cette fois-ci au Moyen-Âge. Là, on entend un peu les tournures de phrases qu'elle aime bien, Lauren Groff, se mettre dans le siècle dans lequel elle écrit. Et dans son roman précédent, dans Matrix, c'était vraiment le catholicisme et le Moyen-Âge qui étaient traités. Là, on change un peu de braquet question religion. On est plutôt sur ce puritanisme anglo-saxon, puisque ce sont donc des Anglais qui vont courir fortune au Nouveau Monde. Elle, ce personnage principal, c'est la jeune servante qui était une enfant adoptée. D'ailleurs, ça c'est terrible. Elle a été adoptée pour être bouillotte en fait, parce que ses maîtres avaient froid et donc ils vont la chercher dans un orphelinat pour la poser, pour poser son petit corps d'enfant sur leurs pieds dans leur lit parce qu'ils avaient froid. Donc voilà, c'est rempli de détails comme ça.
Ça existait ça.
Peut-être à la place du chien, hein, c'est ça qui est décrit. Enfin, exactement. C'est vraiment, le chien meurt, on remplace
et
le chien
remplace
par
un bébé un peu chaud, quoi, qu'on met sur ses pieds comme ça, comme bouillotte. Donc ça campe quand même tout à fait ce personnage. Ce que je disais, c'est qu'évidemment, Lauren Groff, elle maîtrise parfaitement ce qu'elle fait. Elle maîtrise et son style et son propos. Moi, il m'a semblé que c'était presque un peu trop maîtrisé, parce que j'ai eu l'impression, dès les premières pages, de savoir exactement où elle allait. Et j'ai pas été déçue parce qu'elle va là où on pense qu'elle va. Donc il n'y a pas de surprise. Vous l'avez dit, Lucille, c'est en effet un récit très linéaire. C'est une fuite. Elle s'est enfuie, cette jeune servante de cette petite communauté qui s'est installée là, où elle subissait des traitements atroces, où sévit la famine. Et elle s'en va dans un environnement qui n'est pas plus hospitalier, qui est vraiment l'environnement hostile, mais c'est la nature. Et donc, Lauren Groff déploie comme ça sur son roman la différence entre la barbarie des hommes et finalement l'hostilité de la nature, qui est pas si pire. On commence à comprendre que bah, l'ours, il a faim, il va peut-être la dévorer, mais que c'est presque plus naturel et moins mauvais au sens là pour le coup religieux du terme, que ses maîtres qui étaient vraiment très durs avec elle. Donc on voit bien, c'est une jeune femme qui vient de rien, elle était à l'orphelinat, elle ne sait pas lire, elle est complètement illettrée, et pourtant, eh bien, je vous le donne en mille, elle va se découvrir survivor, donc c'est vraiment une héroïne qui se construit au fur et à mesure des pages. Elle doit se débrouiller dans cet environnement où il fait extrêmement froid. Alors là, en ces jours de froid, quand on lit ce roman, moi j'ai eu très froid en le lisant, parce que elle a quand même cette capacité, l'autrice, à avoir un champ de vocabulaire très élargi, et donc elle maîtrise les mots du corps, et notamment les plaies du corps. On sent le froid rentrer dans ses doigts, dans ses pieds, elle perd des bouts parce qu'il fait tellement froid, elle est blessée. Et donc ça, la description de la chair qui souffre, et bah c'est magnifiquement bien écrit, donc là-dessus je lui reconnais tout un talent. Moi c'est plutôt l'histoire et cette fable-là qui m'a pas beaucoup intéressée, parce que j'avais l'impression qu'elle nous donnait tout dès le début, c'est-à-dire ce rapport à la nature, cette jeune femme qui devient une héroïne, donc dans cette espèce de roman d'émancipation féministe, et puis en sous-texte, la colonisation et tous ses méfaits, c'est-à-dire on arrive de loin du nouveau monde, on ne connaît rien à ce territoire, mais on s'installe, et puis on va tout envahir, et on va faire du mal au peuple premier qui était là, eux. Voilà, j'ai trouvé ça un peu cocher les cases de grands sujets d'époque, même si, encore une fois, le style est plutôt remarquable.
Lucille Comeau, plus enthousiaste, visiblement.
Oui, parce que alors je suis assez d'accord en fait avec Marie, mais j'arrive complètement à me dégager de la fable en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu en surplomb, mm-hmm. dont on sent que en effet Lauren Groff, qui est vraiment une habituée en la matière, a essayé de le fourrer un peu de force parfois dans l'histoire de cette jeune fille. Donc en effet, c'est ce que décrivait Marie, c'est un peu une question historique, quelque chose d'un peu spirituel, cette comparaison entre la violence des hommes, mais au sens homme masculin, c'est-à-dire des êtres masculins de ce monde, et de la nature qui finalement est moins violente que les hommes, c'est-à-dire qu'elle a plus peur de rencontrer un homme que de rencontrer un ours, hein, c'est ça concrètement. Il y a aussi, qui est un petit peu mal fichu, je trouve, la présence de ces autochtones, donc des tribus indiennes qui habitent là, qui sont évidemment hyper mise en valeur par rapport aux colons, c'est-à-dire que eux savent mieux vivre évidemment que les colons. Les hommes sont potentiellement moins violents, les femmes sont en tout cas beaucoup plus émancipées que dans la société de laquelle vient la jeune fille. Tout ça est un peu, c'est probablement vrai à l'époque, hein, c'est sûrement vrai en tout cas dans le contexte, mais c'est un peu opportunément amené, quoi, disons. Donc tout ça, ça constitue une espèce de surplomb dont on arrive, moi je trouve, assez facilement à se dégager, déjà en se dégageant de cette espèce de langue, des réflexes de Lauren Groff qui va chercher des mots dans la langue, alors du coup c'est traduit en français, mais dans la langue médiévale, ou disons un français un peu ancien, donc ça donne frêle et tételle, il y a onc à la place de jamais, à toutes les deux phrases, oui. C'est un peu agaçant. En fait ça, il faut se sortir de cette espèce d'agacement que produit le style au départ, parce que c'est un peu énervant, en fait c'est espèce de fantasme de si on met des mots de l'époque, on va retrouver des images de l'époque. C'est assez naïf. Moi, ça m'a fait penser à de la littérature jeunesse. Et ça, c'est le côté mauvais de la littérature jeunesse. En revanche, il y a un bon côté de cet aspect littérature jeunesse du livre, c'est le suspense. C'est que ça fonctionne très bien du point de vue du récit. Moi, je suis pas d'accord avec Marie pour le coup, sur ce qu'elle disait. Elle disait, on sait exactement où ça va, c'est hyper fléché. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que ce personnage qui part d'un seul coup, elle sort d'une palissade, elle est lancée, on ne sait où, dans cette forêt complètement glaciale. je m'attendais pas forcément à la fin, je m'attendais pas aux péripéties. Elle veut quand même quelque chose, elle veut rejoindre les Français, parce qu'elle imagine que les Français, c'est une autre civilisation que les Anglais, et que peut-être eux ont compris quelque chose à cette terre indomptée, et qu'ils ont mieux réussi à vivre. Et ça, bon, je ne vais pas dévoiler la fin, mais en fait, on est quand même surpris, moi, je trouve, au fur et à mesure. Et ce que réussit vraiment Lorraine Groff à faire, et bon, ça peut être en effet un peu pénible, c'est en effet la description des maux du corps. Ça, c'est quelque chose qu'elle réussit parfaitement, parce que c'est très répétitif. C'est-à-dire que ce qui lui arrive à cette jeune fille, c'est concrètement, elle repart, elle s'arrête, elle fait un feu, son feu s'éteint, elle se glace les pieds, ses bottes se trouent, enfin, c'est des choses comme ça. Et c'est exactement à ce type de détails qu'on s'accroche, et c'est là qu'on trouve un vrai plaisir de lecture. C'est dans les toutes petites choses de ce quotidien, évidemment, hors norme, que vit la jeune fille, qui n'a pas de nom d'ailleurs.
On n'a
pas de
jeune fille, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Elle choisit de ne pas du tout la nommer.
Oui, alors ça, c'est un des aspects du livre qui m'a intéressé, ce rapport au nom, parce que la petite fille, elle n'a pas de nom, alors elle se souvient vaguement qu'elle était appelée Lamentation à l'orphelinat, ses maîtres l'appelaient Z, comme la dernière lettre de l'alphabet, pour vraiment lui dire qu'elle était au fond de la classe, quoi, qu'elle servait à rien. Donc il y a ces noms qui apparaissent, et ce qui est très beau dans ce roman, c'est que pour Lorraine Groff, nommer, c'est dominer. Nommer, c'est s'approprier quelque chose. Ce qui est l'inverse de la Genèse, où on dit, vous savez, Adam voit tous les animaux passer devant lui, et puis il les nomme, ce qui veut dire nommer est égal à organiser et à faire exister. Ouais. En hébreu, d'ailleurs, les noms sont très proches. Mais Lorraine Groff, elle démonte ce rapport-là en disant, non, nommer, c'est s'approprier et dominer, dans le sens où les colons qui arrivent dans un territoire, ils vont nommer les choses, pensant qu'évidemment, personne avant eux n'aurait nommé les animaux ou les arbres, annihilant, en fait, toute vie avant eux. On arrive, on nomme, c'est à nous. Ça, c'est assez bien amené, je trouve, et distillé tout au cours du roman. Et en effet, cette petite fille qui n'a pas de nom, cette servante, c'est une jeune fille, on comprend qu'elle a 16-17 ans, hein, à peu près, disons.
Elle ne sait même pas quel âge elle a elle-même.
Oui.
En fait.
Donc c'est une jeune, voilà, disons une adolescente, fait partie de ce processus-là. Elle-même, à des moments où elle est un peu perdue dans ses trous, dans ses cachettes, le temps de se reposer, elle essaie de nommer ce qu'il y a autour d'elle, pour se recréer un environnement familier. Là où je rejoins Lucille, c'est que c'est en effet un roman qui marche toujours de la même façon, c'est-à-dire que la nuit elle marche et le jour elle s'arrête et donc elle essaie de trouver à manger et elle se repose. Donc c'est quand même très très répétitif. Toutes les journées se ressemblent, à part que une fois elle rencontre un ours. Une deuxième fois, elle rencontre un humain qui est plus trop un humain, qui est un ermite de, je ne sais pas, du vieux continent aussi, mais qui est là visiblement depuis
40 ans.
Depuis 40 ans, et on ne sait pas trop comment il a survécu, mais lui, il est très méchant avec elle et il veut aussi la manger. Donc voilà, chaque jour, il y a son lot d'aventures et à chaque jour, elle se débrouille. La faim, par exemple, c'est aussi une des grandes thématiques. On parlait des maux du corps, mais les maux de la faim, la famine, comment la faim ronge et comment elle s'affaiblit au fur et à mesure. Est-ce que fait la famine à un corps, c'est-à-dire comment d'un coup on se retrouve capable de pêcher à main nue dans un lac gelé ou de tuer une famille écureuil pour la mettre en brochette et la manger. Ça, c'est extrêmement bien décrit. En effet, dans ce quotidien qui peut paraître terriblement répétitif, et il l'est, chaque jour a son lot de petites aventures qui fait d'elle, au fur et à mesure, une héroïne qui grandit.
Voilà. Ce que j'allais vous dire, ça fait partie des mythes de la construction du nouveau monde des États-Unis, mais c'est toujours des hommes qui ont vécu ça, ces grandes traversées comme ça, avec des gens qui meurent de faim, qui se mangent les uns les autres dans les rocheuses.
Oui, là, c'est en effet un peu un anti-récit de fondation. Sauf que c'est quand même un récit de fondation et c'est peut-être là aussi qu'il y a des limites et qu'en fait, Lorraine Groff rejoint la grande tradition américaine du récit d'aventure. C'est-à-dire qu'au final, son héroïne, elle a beau être une jeune fille très frêle qui n'a pas de nom, c'est quand même l'héroïne d'une grande aventure dans un territoire balisé, avec une dimension spirituelle, évidemment, qui prend quand même beaucoup de place et de plus en plus, moi j'en avais un petit peu marre à la fin, de ces questionnements qui sont aussi lié à la fin, en fait. D'ailleurs, à la fin FIM, c'est-à-dire qu'elle a tellement faim qu'elle a des hallucinations. Ouais. Bon, tout ça est un peu attendu. Donc, c'est réversible. C'est-à-dire, ce bouquin, à la fois, il rentre en critique d'une grande forme américaine et en même temps, il en imite tous les codes et c'est là qu'il est le plus intéressant. Donc, voilà.
Et donc, c'était Les Terres Indomptées de Lorraine Groff, paru chez L'Olivier sur une traduction de Karine Chichereau.
12h-13h30. Les Midis de Culture. Marie Laborie.
On parle maintenant du lac de la création, quatrième roman de Rachel Kushner, paru chez Stock, traduit par Emmanuel et Philippe Aronson. On vous disait qu'il était question de littérature nord-américaine. C'est vrai, Kushner est née dans l'Oregon, elle vit en Californie, mais toute l'action de son roman se déroule dans le sud-ouest de la France, cette région à cheval, entre la Dordogne, la Gironde, le Lot, dont l'autrice a repris l'ancienne appellation d'ailleurs, la Guyenne. On y rencontre des hommes de Néandertal, une communauté écolo-militante, Bruno, un intellectuel ermite, quasi gourou d'ailleurs pour la communauté en question, et Sadie Smith, ex-agent du FBI, chargée par une mystérieuse officine d'infiltrer ladite communauté et de la pousser à la violence. La romancière dit s'être inspirée de Julien Coupa et du groupe de Tarnac, mais aussi des luttes contre les méga-bassines. Est-ce que ce mélange d'étonnant fait des étincelles? On voit ça d'abord rapidement avec vous, Lucille.
Ben non. Voilà, c'était rapide. Non, ça fait pas des étincelles. Moi, je trouve le roman particulièrement mal fichu et je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi. Je pense qu'il y a vraiment tout simplement un manque de travail, de mise en relation de tous ces pans que vous avez décrits. Quand vous en parlez, on dirait un peu une blague parce qu'il y a plein de trucs, ça a l'air rigolo. Le livre n'est pas du tout rigolo.
Marie Sorbier.
Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, il m'a fait rire, en tout cas. On doit pas avoir le même humour. Oui, alors complètement. C'est un livre qui est à la fois agaçant, mais plaisant. En tout cas, moi, j'ai reçu les deux en même temps, ce qui est plutôt joyeux quand on lit. Et alors, pour moi, ça tient vraiment sur son héroïne. Je vois que vous me regardez avec un regard très noir, Lucille, mais que moi, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que son regard sur la province française m'a fait quand même beaucoup rire.
Parce que vous détestez la province.
Mais j'en viens de la province. C'est pour ça que je peux
ça
en parler.
C'est une accusation terrible.
Je vais adopter ce point de vue.
Oui, c'est ça.
Et par contre, bon, là où je vous rejoins un peu, c'est que le propos pseudo-politique, pour le coup, est vraiment plus un prétexte pour écrire une parodie. Mais moi, cette parodie-là, elle m'a plutôt plu.
On va écouter tout de suite un passage de ce lac de la création de Rachel Kushner, lu par Oriane Delacroix.
Les hommes de Néandertal étaient sujets à la dépression, affirmait-il. Il disait qu'ils étaient sujets à l'addiction aussi, et surtout au tabac. Même si, ajoutait-il, ces nobles et mystérieux thals, comme il appelait parfois les Néandertaliens, avaient probablement extrait la nicotine de la plante d'une manière plus sommaire, en mâchant les feuilles par exemple, jusqu'à ce point d'inflexion dans l'histoire du monde, lorsque le premier homme avait approché de la première flamme la première feuille de tabac. Lisant cette partie du mail de Bruno, passant d'homme à approché, à flamme et à feuille, je me suis figuré un rebelle des années 1950, aux cheveux gominés avec t-shirt blanc et blouson de cuir noir, approchant la flamme d'une allumette du bout de sa camelle avant d'inhaler la fumée. Le rebelle s'appuie contre un mur, car c'est ce que font les rebelles. Il s'affale et traîne, après quoi il exhale. Dans ses mails que je lisais en secret, Bruno Lacombe expliquait à Pascal que les Néandertaliens avaient un très gros cerveau. Ou du moins, que leur crâne était très gros et que nous pouvions sans risque en déduire que cette boîte crânienne était probablement pleine de matière grise.
Le lac de la création de Rachel Kushner chez Stock, traduit par Emmanuel et Philippe Aronson. Lucille, tout à l'heure, vous étiez très très radicale avant de partir sur ce qui vous a déplu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous sauvez?
Alors ça va être compliqué à dire comme ça parce que je sais pas si j'extrais quelque chose. Oui. Je trouve qu'elle le fait suffisamment toute seule pour que j'en rajoute. En fait, c'est un livre très composite, vous l'avez décrit tout à l'heure. Déjà, c'est un roman écrit par une Américaine qui se passe en France. Alors, de fait, elle s'est inspirée de l'histoire de Julien Coupa. Je crois qu'elle a eu des relations avec lui. Enfin, ils se sont parlé, etc. Elle avait même l'ambition un temps d'écrire dessus. Finalement, elle a écrit quelque chose d'un peu annexe, ce qui est intéressant, je pense, parce que ça prouve peut-être aussi une difficulté à rentrer dans le vif de ce sujet, qui est quand même un sujet politique important. Et le livre, je pense, a une ambition politique. Je pense pas que c'est juste un truc rigolo, encore une fois, qui est même presque un peu philosophique. Je pense que c'est un livre sur la France qui a en plus l'idée d'être un peu un livre à la française. D'ailleurs, il y a un moment où il y a un personnage qui surgit. Il y a beaucoup de personnages qui surgissent, il faut le dire, hein, parce qu'ils surgissent, ils repartent, on sait pas pourquoi ils sont là. Et notamment, il y a un certain Michel Thomas, je crois, qui accompagne un politique que l'espionne doit plus ou moins piéger. Et ce Michel Thomas, en fait, c'est une espèce de parodie de Michel Houellebecq, croquée en deux lignes. Hein. C'est un écrivain qui écrit beaucoup sur la France, qui va sur le terrain observer ce qui se fait et qui écrit un peu des choses satiriques en parlant notamment de la misère sexuelle des hommes. Bon, a priori, c'est Michel Houellebecq. Et je pense que dans le projet de Rachel Kushner, il y a l'idée de faire un peu un roman à la Houellebecq, c'est-à-dire un roman avec une assise un peu moraliste sur la France d'aujourd'hui. Sauf que, bon, Michel Houellebecq, il est à l'intérieur de la France, donc il parle de la France depuis l'intérieur. Je pensais aussi à Aurélien Bélanger, parce qu'il y a cette manière de faire des digressions. Par exemple, cette histoire d'homme de Néandertal, ça reste très extérieur au livre, puisque ce personnage de Bruno Lacombe, auquel on a d'ailleurs très peu accès, qui serait, entre guillemets, l'inspirateur du mouvement éco-activiste dont il est question, il est passionné par l'histoire des Néandertals. Il oppose les homo sapiens, qui seraient les mauvais, les méchants, donc les capitalistes, voilà, aux Néandertals, à qui on aurait pris quelques bonnes choses, disons, de notre humanité. Ça, par exemple, c'est intéressant, mais ça ne rentre pas dans le récit. Donc, c'est un récit qui fait feu de plein de bois qu'il ne met jamais vraiment ensemble. C'est donc très ennuyeux, parce que c'est également très long. Et c'est agrégé par un seul personnage. Donc, Marie a trouvé qu'il était bien, ce personnage. Moi, je ne le vois même pas.
L'enquêtrice, du FBI.
C'est une ancienne du FBI. Alors, elle est au FBI, mais elle est espionne. Déjà, il y a vraiment des incohérences, hein, par ailleurs. Elle a travaillé aux États-Unis pour l'État. Ça s'est mal passé. On ne comprend pas trop pourquoi. Tous les flashbacks sont complètement fumeux. Elle se retrouve à bosser pour le secteur privé. Pourquoi est-ce qu'elle est envoyée par le secteur privé de l'espionnage américain dans cet endroit-là? Ça n'est jamais traité. Et je ne suis pas quelqu'un de totalement terre-à-terre. C'est-à-dire que je peux supporter qu'un roman soit un peu au-dessus de ses enjeux. Sauf qu'en fait, il n'y a rien non plus. Donc, l'histoire d'espionnage est un leurre, je veux bien, mais un leurre pour cacher quoi? Le roman philosophique n'existe pas, la question politique n'existe pas non plus. Tout est complètement éparpillé comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une paresse, quoi. Mmh. Une paresse à l'écriture. C'est un problème d'édition. Enfin, vraiment, il y a un truc mécanique qui ne fonctionne pas dans ce bouquin.
Marie Sorbier.
Oui, alors moi je crois que les enjeux n'étaient pas là. En tout cas, moi c'est pas ce que j'ai lu. J'ai vu plutôt une espèce de version des lettres persanes. Vous voyez, c'est toujours ce rapport de l'étranger qui arrive quelque part et qui en parle. Moi j'ai beaucoup aimé, notamment dans le début, enfin avant qu'elle arrive en Dordogne, elle doit se déplacer et donc elle a une voiture et elle va dans cette province française, cette agente. Et j'ai trouvé ces pages très drôles et surtout très vraies. Je trouve qu'il y a un regard sur la province française, cette province moche, ces espèces d'entre-lieux, c'est-à-dire entre les villes, entre les villages qui sont complètement ravagés par les stations essence et ces autoroutes. Il y a des passages dans les stations essence où en fait elle est là au volant de sa voiture et en fait elle s'arrête dans chaque station essence pour boire un verre de vin rouge qui évidemment n'est pas bon puisque c'est une bouteille de station essence et elle se saoule comme ça un petit peu toute seule le long du trajet. Ce personnage que vous n'avez pas aimé, Lucille de Sadie Smith,
je crois que je ne l'ai pas aimé, c'est qu'elle n'existe pas.
Alors moi je trouve qu'elle existe d'autant plus que en fait pour moi il n'y a qu'elle dans ce roman. C'est-à-dire comme on ne voit que par ses yeux à elle, finalement, bah, on est à sa place. Et je l'ai trouvé, vous savez, il y avait un mot quand j'étais jeune qu'on employait, qui est horrible, que je vais employer pour la première fois depuis 10 ans, mais ça me fait rire. On disait attachante. Vous voyez ce mot?
On déteste ce mot.
Bon, eh ben, elle est tout à fait ça, cette Sadie Smith. C'est-à-dire qu'elle est insupportable. Elle a tous les clichés du vieil agent du FBI, un peu misogyne, un peu cradingue. Quand elle est dans un appartement, elle jette ses canettes de bière partout, puis elle les rend jamais, parce que de toute façon, elle s'en fout, puisqu'une fois que sa mission est finie, elle partira. Vous voyez ces personnages un peu de flics déglingues.
Non, mais elle a raison tout le temps, pour autant. Ah bah, elle est très antipathique, mais elle a raison tout le temps, parce qu'il n'y a pas d'autre point de vue dans le livre.
Tout à fait, il n'y a qu'un seul point de vue, c'est le sien. Elle a raison tout le temps, elle est très antipathique, je vous rejoins. Mais moi, c'est le seul fil qui m'a tenu, et c'est le fil qui m'a plutôt fait rire, parce qu'il est tellement caricatural, ce personnage de femme agent, que je me suis plutôt attachée, et je l'ai suivi avec plaisir. Deuxième truc qui m'a intéressée, c'est quand même ce fameux Bruno dont vous parlez. En effet, on n'y a pas accès, puisque ce gourou... Alors, j'ai une fascination pour les gourous, faut dire. Donc, je suis obligée de dire que toutes les figures de gourous m'intéressent.
Enfin,
moi, je l'ai trouvé très gourou. Il est quand même... Il s'est quand même retiré du monde pour aller vivre dans une grotte. Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça.
Mais il est seul.
Un ermite, voilà. Un penseur ermite. Et puis, dans cette grotte où il est arrivé par hasard, ben, d'un coup, il a eu des révélations parce qu'il s'est senti très proche. On est en Dordogne. Hein. La Dordogne, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de grottes préhistoriques. Donc, il arrive dans cette grotte. Et puis, de là, il a, oui, des illuminations. Il commence à voir à quel point les Néandertaliens ont des choses à nous apporter. Et on suit sa pensée parce que cet agent du FBI a accès aux mails de la communauté. Et donc, elle reçoit tous les mails de ses gourous, car le gourou communique par mail depuis sa grotte. Enfin bon, tout ça. Et en effet, je vous rejoins, Lucille, la construction est complètement foutraque. Moi, je trouve que ça fait partie de la parodie de l'ensemble. Et autre élément que je trouve quand même assez réussi, c'est les personnages ou en couleur. Alors, en effet, ils partent et ils s'en vont, mais il y en a quand même quelques-uns
qui sont... Mais on les connaît par cœur, c'est des images caricaturales, typiquement sur l'activisme français tel que...
Qu'est-ce qu'elle dit sur l'activisme ?
Alors, vous voyez Problemos, le film d'Éric Judor ? Et c'est ça, mais en pas drôle. C'est-à-dire qu'en gros, elle décrit une espèce de cour des miracles, des femmes avec des seins qui pendent, qui fument des clopios, leurs gamins, ils sont tous en commun, mais en fait, personne s'en occupe, et puis les femmes s'en occupent parce que les mecs, ils ont beau dire, ils foutent rien. Mais vraiment, c'est un niveau de caricatural qui excède la parodie. C'est-à-dire que, par exemple, la satire, la parodie, ça veut dire qu'on connaît son sujet et qu'on fait quelque chose d'un peu inventif du point de vue de la forme. Là, en gros, elle prend des choses qu'elle ne maîtrise pas bien. Donc, à savoir, par exemple, ce que c'est une communauté rurale. Moi non plus, je ne maîtrise pas bien, mais je pense que ce n'est pas ça. Ou, par exemple, Guy Debord. Je ne sais pas pourquoi elle s'acharne sur Guy Debord.
Il y a une obsession de Guy
Debord. Il y a une obsession Guy Debord sans que jamais la question de c'est quoi la pensée de Guy Debord, en quoi ça rentre en conflit ou pas avec celle de, par exemple, un Bruno Lacombe, comment ça inspire ces jeunes qui se retrouvent, qui sont des bourgeois parisiens, en effet, qui se retrouvent d'un seul coup dans la campagne pour essayer de mener des actions. Et bien, Guy Debord, elle le prend que sur le volet, c'est un vieil alcoolo, il est super moche sur les photos. C'est pas très intéressant, en fait. Et puis, c'est pas très drôle non plus, parce que c'est totalement gratuit et c'est totalement non motivé. Et moi, je persiste à croire que Rachel Kushner, elle veut faire quelque chose de motivé. Elle pense qu'elle dit quelque chose du monde en balançant des trucs avec une sorte de fond, mais auquel on n'a pas accès, sur les Néandertals, l'humanité, le capitalisme, le situationnisme, la France, l'Europe, l'Europe des stations-service. Ça, tout ça n'a aucun rapport.
Et juste, Marie, en fait, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis par ailleurs.
Oui, il était dans toute les listes des grands prix. Je crois qu'il est arrivé second au Booker Prize. Enfin, oui, c'est un livre qui a beaucoup de succès aux États-Unis, mais parce que je crois, encore une fois, que ce qui plaît, c'est la vision de la France vue par une Américaine. Et juste pour revenir sur l'autrice, moi, je crois qu'elle s'est pris au jeu au fur et à mesure de son livre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. C'est-à-dire qu'au début, ses mails sur les Néandertaliens, on rigole un peu. Enfin, moi, ça me faisait quand même rire au sens du gourou illuminé dans sa grotte. Et puis, au fur et à mesure du livre, quand même, plus on entend cette théorie, on la lit, on sent que la narratrice et l'autrice finalement commencent à y voir des choses un peu intéressantes dans cette théorie-là, et puis ça finit par nous gagner. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se dit finalement dans ces néandertaliens.
C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle peut pas faire tout jeter d'un coup, ça serait trop cynique, donc elle s'accroche à ce personnage de Bruno Lacombe, qui est le seul personnage un peu valorisé par le livre, qui en effet a une vraie pensée, in fine, mais comme par hasard, c'est le personnage auquel on n'a jamais accès, ce que je trouve assez révélateur quand même.
Mais elle dit quoi sur l'éco-activiste ? C'est-à-dire qu'elle est cynique en permanence ?
Oui, elle est cynique. Ouais. En fait, elle est là pour les observer et puis pour prévenir ses employeurs qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais si cette petite bande d'activistes va prévoir un attentat écologiste, ce qui va se passer finalement à la fin. Elle est juste là pour les pousser à commettre un acte répréhensible pour qu'ils puissent être arrêtés. D'accord. C'est ça son rôle.
Et ce qu'on ne comprend pas d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'elle vient faire pour, quel est l'intérêt d'une quelconque entreprise privée américaine à pousser à un petit attentat dans la campagne française, c'est incompréhensible.
Eh bien, je vais vous laisser choisir, amis auditeurs, auditrices, le lac de la création de Rachel Kushner chez Stock, traduit par Emmanuel et Philippe Aronson, Marie Sorbier, Lucille Comeau. Merci beaucoup d'être venues toutes les deux nous éclairer. Toutes les références, les infos, c'est évidemment sur la page des Midi de Culture.